bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui mute les films à la sortie. Salut Hera.
Salut Thomas.
Salut Karl.
Salut Thomas.
Et salut Thierry qui nous écoute depuis son avion, qui rentre de vacances. Aujourd'hui, un film de super-héros. C'est pour ça que Karl est là, notre expert comics. Comics comme X-Men. Waouh, ça a été fait exprès. On dirait que ça a été écrit presque. C'est merveilleux. X-Men Dark Phoenix, réalisé par Simon Kinberg, avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence et Jessica Chastain.
Ton accent aussi mute.
Mon accent a été exposé au rayon X. Depuis Godzilla, je ne suis plus le même. Un film X-Men Dark Phoenix qui est censé clôturer le cycle X-Men hors Marvel, hors MCU du coup.
C'est ça, il y a aussi les Nouveaux Mutants, qui était l'autre projet, qui est censé être la troisième génération de mutants arrivés à l'Institut Xavier, qui avait l'air de s'orienter vers un thriller psychologique angoissant. Ça a été repris par Disney, je pense que ça va être de la merde maintenant. On a vu ce qu'ils ont fait avec Predator, on va voir Dark Phoenix, j'annonce, ça va être de la merde.
Alors qu'est-ce qui te fait dire ça?
Alors déjà les films précédents.
D'accord.
Même Apocalypse, que je suis l'un des très rares à défendre, il est pas bon, hein, on va être honnête. Dark Phoenix, c'est aussi une saga très culte des comics, qui n'auront jamais les couilles de faire bien adapté. Et c'est aussi un film produit par la Fox qui a été recharcuté par Disney pour plaire au public du MCU. Je n'aime pas le MCU.
Ok, oui, donc ça annonce du gros. Hera, est-ce que tu aimes les X-Men? Est-ce que tu connais un peu les X-Men? Est-ce que tu t'intéresses aux X-Men?
Surprise, oui. J'aime bien les X-Men. Je m'intéresse aux X-Men. Ça doit être les seuls éléments un peu fantastiques, comics, seul type de film que je peux apprécier. En tout cas, d'univers. Je ne vais pas dire que j'ai vu tous les X-Men non plus. Mais j'en ai vu quelques-uns. Et j'ai passé un très bon moment à chaque fois. Parce que c'est un univers à part entière, que c'est assez carré comme cadre. Il y a une école, il y a des mutants, la société les aime pas. Donc c'est carré, c'est expliqué. Là où d'habitude je me perds complètement dans les autres éléments du MCU, entre on sait qu'ils existent, on sait pas qu'ils existent, il y a des gens qui les rejoignent, on sait pas d'où ils sortent. C'est trop large pour moi, alors que là c'est un peu plus cadré, et je trouve que les personnages ont des super pouvoirs méga intéressants. Donc je passe toujours un super moment à voir ces interactions et ces combats avec ces pouvoirs vachement drôles en fait.
Alors, petite anecdote, Stan Lee a créé les mutants parce qu'il a la flemme d'imaginer des origin story pour chacun de ses persos.
Ah, ça ferait peut-être un point commun avec les scénaristes actuels qui ont la flemme d'écrire un scénar.
Oui.
J'avais une petite question, tu disais qu'ils n'ont pas les couilles d'adapter justement Dark Phoenix. Qu'est-ce que ça apporte Dark Phoenix dans l'univers X-Men?
Alors, Dark Phoenix, alors c'est une histoire très compliquée d'entité cosmique, de résurrection, c'est un bordel. En gros, Jean Grey meurt pour seulement la première fois à ce moment-là, ou la deuxième, c'est dur à suivre, parce qu'elle a aussi des clones d'elle qui meurent, et elle meurt aussi dans le passé et dans le futur, c'est très compliqué. Elle meurt, et en fait, elle ressuscite en étant possédée par une entité cosmique.
Alors, Jean Grey, c'est celle qui va être jouée par Sophie Turner, c'est-à-dire celle qui joue dans Game of Thrones, hein,
c'est ça. C'est Sansa Stark qui va être contrôlée par la cornée à trois yeux, mais super vénère. Bah, dans les comics, par exemple, il y a une fois où elle s'énerve et où elle détruit une galaxie avec tous les habitants dedans. Voilà, c'est ce genre d'entité. Et après, les autres X-Men se disent « Hey, faut peut-être l'arrêter. Par contre, elle vient d'exploser une galaxie, moi je peux jongler avec des balles. On va voir ce qu'on peut faire. »
Et moi, tout ce que j'ai, c'est un enregistreur audio. On va voir ce qu'on peut faire.
She should be dead.
Did you hear what the kids are calling you? Phoenix.
Hello, Jean. Who are you? The better question is, who are you?
Something's happening to me.
When I lose control, bad things happen. But it feels good.
That power destroyed everything it ever came into contact with. Until you. The X-Men fear you. And what they fear, we seek to destroy.
She'll kill us all.
A girl dies.
still our friend?
She's not Jean anymore.
Are you threatening me?
That's right.
That would be a bad idea.
Ce film ressuscite-t-il la série ou l'enterre-t-il définitivement?
Ah, ça commence à ressembler à un bout de course, là. La saga commence à être assez fatiguée. Bah, y a même pas eu de scène post-générique, ça je spoil. Y a pas spécialement de film annoncé, en plus ça change de studio. Ça commence à ressembler à de la fin, ça.
Et du coup, est-ce qu'il part en beauté? Est-ce que c'est une fin flamboyante? Ou au contraire, est-ce que ce n'est qu'un tas de cendres fumant?
C'est assez moyen. Il y a des moments plaisants, le scénario est une connerie abyssale. Mais il y a... Pour un film de divertissement, ça gère bien ses scènes d'action, les moments qui veulent être rapidement émouvants le sont rapidement, il y a quelques développements de perso, ça fait le taf.
Ah oui, donc ça fait le strict minimum finalement.
Un peu, ouais. Ça fait le boulot. Faut pas venir pour le scénario, faut pas venir pour essayer d'y trouver une leçon de vie, même s'il y a énormément de symbolique, on en parlait pendant et à la sortie du film, de double lecture sur... la Bible, le Christ, le pouvoir, Dieu, la religion, tout ça. Donc, énormément de symbolique là-dessus, qu'il n'est pas nécessaire de voir ou d'analyser pour passer un bon moment ou pour trouver une forme de profondeur. Comme dit Karl, les moments sont plutôt bien amenés entre sensibilité, émotion et action. Mais voilà, le scénario n'apporte rien de spécial en plus de tout ce qu'on a déjà pu voir dans des films d'action, et, que ce soit de super-héros ou non, rien de particulier. Par contre, je dois avouer que j'adore vraiment ce type de mise en scène-là. Je trouve que les gestions des combats sont très bonnes en termes de rythme, en termes de plan. Il n'y a pas de surexcès d'effets spéciaux comme on peut... Désolé, je refais un comparatif avec ça. Il n'y a que ça que je connais qui est insupportable. Mais Snyder, bordel ! Là, au moins, c'est plus léger. C'est même beau. La scène, il y a une scène où... En gros, Jean Grey a des pouvoirs encore plus forts que d'habitude, et elle se fait embarquer par on ne sait pas qui. Il faudra qu'on reparle de l'archétype d'ailleurs des méchants. Par on ne sait pas trop qui, et il y a une scène où elle est transvasée dans l'espace pour qu'on vienne lui expliquer ce que c'est que ce pouvoir-là. Et bah, cette scène est vraiment super belle. Il y a une vision de l'espace, des étoiles, des nébuleuses qui est vraiment bien foutue, bien mise en scène. Et globalement, là-dessus, c'est très plaisant. Les rythmes sont bien gérés entre les scènes de combat et les scènes plus de tranquillité et de développement du scénar, tout simplement. Donc là-dessus, je trouve qu'on y trouve largement notre compte, en fait.
La force de tous les films X-Men, et même de la saga dans tous les médiums sur lesquels elle était transvasée, ça a toujours été ses doubles lectures. Parfois christiques, à ses débuts dans les années 60, parabole du combat des Noirs, Xavier en Martin Luther King et Magneto en Malcolm X. Et à partir des années 70, en métaphore de combat des LGBT, une époque où il était interdit d'écrire le mot « gay » dans les comics, et par extension un combat de toutes les minorités, de tous les gens auxquels on demande de prouver que plus de choses qu'aux autres par leur sexualité, par leur couleur, par leur religion. Et ça, c'est toujours ce qu'a réussi à faire X-Men. Ça et aussi le côté merveilleux de parmi nous il y a des gens qui ont des pouvoirs et ils sont comme nous, mais tu peux marcher dans la rue, un mec va faire sortir le métro de la rue, quoi. Et ça, c'est les deux trucs qu'ils ont toujours réussi à gérer, même dans leurs films les plus faibles.
Hera, tu disais que tu aimais bien les scènes d'action, j'ai l'impression de ne pas avoir vu les mêmes. C'est que t'es dans tous les sens, ça va très vite. Les plans, les montages sont pas toujours super raccords, on est un peu perdu par moment. Bon, en fait, disons que c'est très compliqué de revoir une scène de baston après avoir vu John Wick une semaine ou deux avant. La vérité est là. Je ne vais pas comparer le scénario, je dis juste qu'en matière de scènes d'action, c'est très compliqué de revenir sur des scènes ultra cutées où on ne voit rien, parce qu'on ne voit pas grand-chose, soyons honnêtes. Pareil, on parlait de Godzilla l'autre fois où on ne voyait rien, là c'est un peu pareil, quoi. Il y a des moments où on ne voit rien.
Quand même, il y a un petit peu plus de spectacle. Il y a des combats entre mutants ou entre mutants et races extraterrestres, où il y a aussi des extraterrestres, ça part en vrille.
Heureusement, à un moment, il y en a un qui arrête le temps, enfin, qui va super vite, donc qui arrête un peu le temps dans sa vision, et ça permet de voir à peu près ce qui se passe. Heureusement qu'il est là de temps en temps.
Non. Les scènes de combat, on comprend quand même ce qui se passe. C'est cuté, oui, c'est du gros divertissement grand public. Et quand on sort du MCU, où les pouvoirs n'ont pas été exploités dans les combats comme ils ont pu l'être par exemple dans Civil War, la scène de l'aéroport, où dans le fond on voit toujours des mecs qui continuent à utiliser leur pouvoir sans se concentrer là-dessus, et ben ce film-là fait ça aussi. Il y a un travail de chorégraphie qui est assez bien foutu. Il y a un moment où Diablo s'énerve et il commence à choper des couteaux, à se téléporter en cutant tout le monde. Ça, c'était un moment super fun.
Alors tu parles du MCU, la Fox est rachetée par Disney, donc la licence X-Men va très certainement, enfin va même carrément rejoindre l'écurie Marvel d'ici peu. Est-ce que ça serait pas une bonne nouvelle côté effets spéciaux? Parce que j'ai trouvé que c'était un peu cheap par rapport à ce qu'on pouvait voir chez Marvel, quoi.
J'irais pas jusqu'à dire cheap.
Disons, par rapport à Marvel qui a des gros budgets pour ça et qui est très spécialisé là-dedans.
Mais je suis pas très d'accord avec Hera quand elle dit qu'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Je sais pas combien de plans du film n'ont pas été faits dans un studio sur fond vert.
Même quand ils sont pas maquillés dans un manoir, j'ai l'impression qu'ils sont sur fond vert.
Et donc, il y a un ou deux plans qui piquent un peu les yeux parce que. Sur une débauche comme ça d'effets spéciaux, il y aura un ou deux plans bâclés. C'est déjà un film dont la sortie a été recalée plusieurs fois. Ils ont réussi à le sortir avec juste 3-4 plans qui auraient pu être finis. C'est déjà pas mal.
Je dis pas qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Je dis qu'il n'y a pas une surabondance d'effets spéciaux hyper léchés, dégueulasses à la Snyder. C'est pas pareil. C'est-à-dire que Snyder surlèche tout, que ça se finit en mode de gros tourbillon de lumière. Je dis pas qu'on n'en a pas un peu des scènes comme ça. Et je dis pas qu'on n'a pas non plus des plans ultra iconiques, et parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas surabondant comme chez Snyder. Et la réelle n'est pas du tout comme les frères Russo, qui sont du genre à, bah, pour moi, ultra cutés, faire des trucs qui n'ont aucun sens, exiler leurs personnages parce qu'on s'en fout, donc complètement foutre les scènes en l'air sans aucune émotion, que dalle. Là, je trouvais de la réelle beaucoup plus souple et beaucoup mieux rythmée que si je fais une comparaison au Marvel. Et au niveau des effets et des combats, bah moi je suis pas d'accord, tu vois Thomas, moi je trouve que ces combats là sont beaucoup plus agréables, les effets, parce qu'il y en a quand même moins en termes de quantité de sur-effets spéciaux, je trouve ça aussi plus agréable et plus léger, moins indigeste quoi.
Je me rends compte, on va pas du tout raconter l'histoire pour les gens qui ne connaissent pas.
Mais je crois qu'on s'en branle en fait, parce qu'il y en a pas vraiment.
Non mais
il y a pas d'histoire.
Il y a pas de grande histoire, mais pour résumer rapidement, pour que les gens sachent de quoi on parle, c'est l'histoire de Jennifer Lawrence qui a très très envie de quitter la franchise et qui du coup se fait tuer par Jean Grey, qui a été possédée par une entité cosmique parce qu'ils sont allés secourir des astronautes dans l'espace, ce qui est également le début de Superman 4. Regardez Superman 4, buvez en même temps, vous allez rire. Et revenue sur Terre, elle est surpuissante, elle ne se contrôle pas et... devient le phénix qu'on avait déjà vu massacré dans X-Men 3 et qui a été teasé dans quasiment tous les films où il y a Jean Grey depuis 2001.
Oui, et il y a aussi, alors tu dis qu'elle se fait posséder par une entité extraterrestre, mais l'entité extraterrestre était elle-même poursuivie par des extraterrestres qui sont pas exactement les mêmes mais qui veulent la posséder, mais on sait pas trop ce qu'ils sont, ce qu'ils font, d'où ils viennent, comment ils arrivent, comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur pouvoir, on sait pas vraiment.
Ah oui, ils sont pas, enfin, ils arrivent un moment dans le film et c'est tout, ils sont pas introduits.
Extraterrestre random numéro 47 quoi.
Honnêtement, en sortant de la salle, bon alors c'est un univers que j'adore et que je connais bien, hein. J'ai dû vérifier quelle race c'était, c'est carrément. C'est les Debari.
D'accord.
Voilà, non tu ne connais pas, ils sont apparus dans genre 5-6 histoires des années 60 des Avengers et puis c'est tout.
Ouais, ça là-dessus c'est... Moi je dirais que c'est quand même ça la grosse faiblesse du film, si on retire le côté, le fait que le scénario soit déjà faible. Mais alors à l'intérieur du scénario, la grosse faiblesse c'est l'archétype du méchant, qui est pas du tout exploité, on s'en fout. En fait ça pourrait être ça, comme ça pourrait être autre chose, on aurait pu caler les Silence de Doctor Who, ça serait passé quand même, pas de problème. Ça aurait été même vachement plus stylé en fait quand j'ai réfléchi. Mais bon, bref. Donc ça, vraiment gros problème, comme dit Thomas, ils débarquent, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'ils veulent. L'entité cosmique, pareil, bon, on peut trouver 15 000 raisons méta de à quoi ça sert et d'où ça vient et ce que c'est, mais on va nous en donner aucune parce que, eh ben on s'en fout, on avait juste un film à exploiter donc on l'a fait, et c'est vraiment dommage parce qu'on on comprend pas leur pouvoir, donc on sait même pas s'ils sont bien exploités, bien mal exploités. Ils sont là pour être là parce qu'il fallait un ennemi, mais...
Oh, dire qu'il fallait faire un film pour faire un film, franchement, ça serait mauvaise langue. Hein. Je pense pas que ça soit l'état d'esprit de Simon Kimber, le réalisateur qui était scénariste, mais qu'on n'a pas dit au début de l'émission qui était aussi producteur aussi des autres épisodes et producteur de celui-là. Je pense que c'est absolument pas l'état d'esprit, ça serait très mauvaise langue.
Après, on peut reconnaître à la Fox par rapport à Disney de ne pas avoir sorti 3 films X-Men par an et d'en sortir un tous les 2 ans, 2 ans et demi. C'est pas toujours super, mais au moins ils prennent leur temps et ils se demandent ce qu'ils vont foutre avec leur personnage.
Ouais, mais ils se sont pas demandé assez, j'ai l'impression.
Ah non, non, du tout.
Par contre, alors non, par contre, on parlait des méchants. Donc le leader des méchants, la chef des méchants, c'est Jessica Chastain. Et je pense qu'il y a eu une bonne idée avec ce personnage. C'est de demander à Jessica Chastain, qui chaque fois qu'elle apparaît dans un film, normalement crève l'écran et vole la vedette à tout le monde. On lui a dit, tu vas jouer sans émotion. Comme ça, tu ne feras pas d'ombre à tous les autres mauvais acteurs du film.
Sois aussi présente que dans Ma vie avec John F. Donovan.
Stay Loki.
C'est ça.
Donc parce que il y a un
niveau. Non, Loki, c'est pas les mêmes.
Ouais, non, parce qu'il y a un niveau de jeu global qui est quand même très très faible. Quoi.
Ouais, McAvoy, c'est très limite. C'est vraiment très 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 limite.
Lui, quand il cabotine pas à faire 36 personnalités.
Ouais, là c'était. Pourtant, au départ, ça passait, il était plutôt bien introduit. En fait, dans le Xavier du passé, ça va, parce que ça passe ce genre d'attitude. Mais dans le Xavier du présent, le coup du mec. Parce qu'en plus, c'est le personnage sûrement le plus intéressant de ce film. Parce que Jean Grey, au final, son développement n'a aucun intérêt. Faut dire ce qu'est. Le développement de ses pouvoirs, pourquoi pas, mais son développement, elle, on s'en fout. Du coup, McAvoy, quand il devient adulte, donc c'est le personnage qui est vachement intéressant. Charles Xavier est un personnage vachement intéressant parce que. Il est égo-trippé et qu'il y a un moment où il faut qu'il se rende compte que son égo doit redescendre et qu'il fasse un peu l'inventaire de lui-même. Donc il y a un progrès du personnage et c'est ça qu'on attend dans ce film. Et c'est quelque chose qui est fait, mais qui est fait en 2 secondes sans aucun développement. Donc qui est amené sur le papier du genre « Eh, au fait, ça y est, il y a rédemption, on peut avancer dans le film. » Et ça, c'était très très mal amené.
Niveau jeu d'acteur, j'ai oublié le nom de la serpillière qui joue Cyclope. Mais putain, le gars, c'est moi, sentir émotion. Moi, amoureux, toi. Toi, rentrer maison, s'il te plaît.
Toi, promettre, toi, rentrer maison.
Et Jennifer Lawrence, c'est putain, mais laissez-moi me barrer. Même son perso veut se barrer. Hein.
La mort de Jennifer Lawrence, mais c'est anti-climax au possible, quoi.
En faisant une déclaration d'amour à The Beast, n'importe quoi.
Ouais. Et à un moment, je me suis dit, ah, ils ont buté Fassbender aussi. Ils ont buté Magneto à un moment, parce que j'ai cru, parce qu'il se prend des éclats dans la gueule. Et je me suis dit, ah, il y en a un qui a réussi à s'en tirer aussi. Et en fait, non.
Mais Fassbender est sûrement un des meilleurs. Enfin, l'arrivée avec Fassbender, son arrivée et ce qui se passe avec lui, est sûrement un des moments les plus agréables du film, par contre. Parce que là, il y a vraiment. Il y a des raisons derrière. On les connaît ou si on les connaît pas, on les sous-entend. C'est bien amené. Et Fassbender s'est joué, donc quand même, là-dessus, c'est cool.
Bah ça c'est la chance d'avoir une saga qui a quasi 20 ans avec des persos qui sont bien ancrés maintenant dans la culture populaire, dans l'imaginaire collectif, c'est que tu peux juste foutre Magneto, passer à Charles Xavier et même si en soi t'as pas les films X-Men en tête, si t'as pas vraiment la relation entre les deux, tu comprends que leur opposition ne vient pas d'un « je suis gentil, tu es méchant » mais ça vient d'une différence de vision du monde, différence de vision de qui ils sont et de qui sont les humains et de leur place dans le monde. Ça c'est gardé. Et c'est important parce que c'est un truc basique des X-Men, comme je disais, dès les années 60, c'est Martin Luther King contre Malcolm X.
Donc du coup, faut y aller ou pas?
Si vous êtes à jour.
Si vous avez envie de passer un moment de petit divertissement et que vous avez 2 heures devant vous.
Je crois que j'oubliais le film pendant que je le regardais.
Ouais, moi aussi.
Donc je serais incapable de vous dire, c'est pas très consistant quoi. Franchement, c'est vraiment un dépannage, mais... faudrait peut-être pas aller courir voir ce film.
En même temps, est-ce que les films de super-héros, parmi la dizaine qui sort par an, ou peut-être, bon, allez, 5 à 8 par an, combien il y en a de consistants là-dessus? C'est très rare. Vraiment.
Moi, je suis prêt à me taper 15 Dark Phoenix pour avoir un Spider-Verse.
Ah, il y avait The Spider-Verse. C'était Sortez les mains chaud. Merci, Ira.
Merci, Thomas.
Merci Karl.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour nous soutenir, partagez l'épisode sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast. Un petit commentaire, un petit partage. Et puis, pourquoi pas, proposez-nous le prochain film. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Bisous, bisous, bisous.
Thomas, tu es spécial. Tu peux citer les agrégateurs de podcasts sans hésiter, en boucle à chaque fois qu'on fait une émission. Viens dans mon institut.
Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes applications de podcast ou agrégateurs de podcasts, bien dit. iTunes, encore pour quelques temps. Apple Podcast, qui le remplace, c'est la même chose. Google Podcast.
De toute façon, Disney va tout racheter.
Ouais. Stitcher, Spotify, Deezer.
Et enlève ses oreilles de Mickey tout de suite.
Castbot.
On s'est fait racheter par Disney, chez Clac.
Et je trouve que les X-Men, c'est quand même vachement bien. Depuis que j'ai le chèque dans la main, là, tu vois, waouh.
Incroyable, comme c'est super.
On va regarder les 23 films du MCU, là, tout de suite.
Ah putain, je pourrais me les faire en boucle. Et d'ailleurs, hey, est-ce que je vous ai dit qu'Aladin, c'était vachement bien?
Oui. Est-ce qu'on peut reparler de Dumbo? Parce que c'était quand même génial, hein.
Et j'ai hâte de voir le Roi Lion, c'est incroyable. Hein, d'ailleurs, je pense que je vais me le refaire en boucle et je vais me l'acheter en DVD Blu-ray Collector avant d'aller voir le nouveau, tu vois.
Disney, payez-nous.
S'il vous plaît.
Faites pas genre, vous avez la thune, vous en avez pas besoin, nous aussi.